Thomas Elwood, fait marquant de sa vie, et sa poésie préface de l'éditeur du site Thomas Elwood, 1639-1713, est aujourd'hui surtout connu comme l'éditeur de la version officielle du journal de George Fox. Son travail d'édition du journal de Fox fut exécuté avec une grande maîtrise, ce qui nous amène à conclure que le Seigneur l'avait préparé de façon unique pour mener à bien cette tâche, rendant le message inestimable du journal compréhensible et intéressant pendant des centaines d'années. Elwood fut convaincu de la vérité par le ministère d'Edward Burroughs et, jeune homme, fut accompagné dans sa croissance par Isaac et Mary Pennington. Il était un éminent serviteur du Christ, mettant sa plume au service de nombreux écrits sérieux pour défendre le témoignage et les pratiques des Quakers, chaque fois qu'ils étaient fréquemment attaqués par de virulents critiques. Elwood fut aussi un poète Quaker de renom. L'œuvre mise à l'honneur sur ce site est la vie du roi David en poésie. Ses talents d'écrivain furent affinés par son association avec John Milton, qui, étant aveugle, employa Elwood comme lecteur et qui façonna sa pensée et sa manière de s'exprimer. L'autobiographie d'Elwood, La vie de Thomas Elwood, est relativement facile à lire, est entrelacée de poésie en rapport avec les circonstances et nous fournit la description la plus détaillée qui soit des conditions de détention. Il était grandement aimé et admiré par ses amis pour sa compassion, sa bonté, son courage à s'opposer à ce qui dérivait vers l'erreur et ses écrits clairs défendant et soutenant la cause des Quakers. Ce qui suit est un ensemble de faits marquants tirés de son autobiographie avec l'intégralité de ses poèmes. Comme pour le reste des écrits de ce site, la langue a été légèrement modernisée en remplaçant « you » par « thee » et « thou », « rasparast », etc. En outre, des substitutions ont été faites pour des mots obsolètes, avec à l'occasion une restructuration des phrases. La préface rassemblait les fragments qui restent, afin que rien ne soit perdu. Jean 6, 12, telle fut l'instruction de notre Sauveur à ses disciples après qu'il eut nourri la multitude, et cela peut bien et utilement s'appliquer à la collecte et à la conservation des récits vides d'hommes de bien, d'hommes qui, en leur temps, furent éminemment utiles dans les situations où Dieu, par sa bonne providence, les avait placés. Et cette conservation, par la publication, doit d'autant plus être faite qu'eux-mêmes laissent derrière eux, par écrit, un récit de leur vie et des miséricordes singulières de Dieu à leur égard. Car à partir de tels récits, le lecteur peut le mieux discerner l'état particulier de l'homme, ses exercices et sa croissance dans l'œuvre de restauration, hors de la chute de la dégénérescence, et en les lisant non seulement être poussé à bénir le nom du Seigneur à son sujet, mais aussi recevoir quelques directions du chemin si nettement tracé et un fondement d'espérance, afin que par la fidélité, ils puissent eux aussi parvenir à la même bonne expérience. Je n'ai aucun doute qu'une chose de ce genre puisse échoir à beaucoup de ceux entre les mains de qui ce traité viendrait à tomber, car ils y rencontreront une variété d'exercices, et les providences de Dieu y sont toutes relatées avec beaucoup de force et de simplicité d'expression. Notre ami défunt Thomas Elwood ayant été un homme que Dieu avait doté d'aptitudes singulières, tant comme homme que comme chrétien, ce qui ressort non seulement de ce bref récit de sa vie qu'il a écrit lui-même, et du supplément qui fut ajouté, mais plus largement. Service, il était d'une manière particulière qualifié par une sagesse spirituelle et une obéissance chrétienne auquel s'ajoutait en lui une grande force et une profondeur de jugement, grâce auxquelles il pouvait discerner les esprits des autres et de forme être du sien propre, comme cela apparaissait à ceux qui le connaissaient, non seulement par la solidité de ses raisonnements et l'à-propos de ses paroles, mais aussi par sa grande et exemplaire modestie, en ce qu'il n'était pas prompt à proposer, ni opiniâtre au point d'insister rudement sur ce qu'il a. Son visage était viril et enjoué, son maintien grave, et pourtant affable et courtois même envers la personne la plus humble, sa conversation innocente, agréable et instructive, tout en étant sévère contre tout ce qui dépassait la liberté de la vérité. Ses qualités, avec ses autres dispositions du corps et de l'esprit, le rendaient très apprécié comme ami, comme voisin, et comme membre et ancien dans l'Église du Christ, d'autant plus que son temps était principalement consacré à être utile dans l'une ou l'autre de ses fonctions. Je pourrais ici mentionner en particulier les divers travaux de notre ami défunt, selon leurs époques respectives et la nature de leurs sujets, mais une grande partie en étant déjà faite dans les pages qui suivent, je préfère renvoyer le lecteur à celles-ci, ce qui pourra peut-être l'inciter à les lire, et je dirai seulement à leur sujet que le lecteur avisé observera aisément que sa méthode et son style indiquent qu'il avait été un érudit, et pourtant pas au-delà de ce que lui permettait la simplicité et la pureté de la vérité dont je fus auprès de notre ami Thomas Elwood durant la plus grande partie de sa maladie, au cours de laquelle il fut aussi très fréquemment visité par notre ami George Ball, qui était son voisin. C'est donc à lui que je renvoie pour le récit qu'il peut donner de ses paroles mourant. Si le Seigneur n'a plus d'œuvre pour moi, j'en suis content et résigné à sa volonté, et mon sincère adieu à tous mes frères. Et une autre fois, plus près de sa fin, il nous dit à nous qui étions présents, le cœur profondément brisé, « Je suis rempli de joie et de paix, mon esprit est rempli de joie. comme il m'a été donné d'être bien familiarisé avec lui, quoique seulement dans les dernières années de sa vie, et sachant qu'il n'usait ni n'encourageait les éloges élaborés à l'égard des personnes décédées, je n'ajouterai rien de plus à son sujet, si ce n'est pour dire, avec l'apôtre au sujet du fidèle, qu'il était juste, Dieu rendant témoignage à ses dons, et par eux étant mort, il parle encore, Hébe. 11.4. Joseph Why, la vie de Thomas Elwood, écrite par lui-même jeunesse. Le lieu de ma naissance était une petite ville de campagne appelée Crowell, située dans la partie supérieure de l'Oxfordshire, à 3 miles à Ledesheim, la ville de marché la plus proche. Mon père s'appelait Walter Elwood, et le nom de jeune fille de ma mère était Elizabeth Putman, tous deux de bonne ascendance, mais issus de familles en déclin. Ainsi, ce que possédait mon père a un assez beau domaine en terre, et comme j'ai entendu dire, davantage encore en argent, il le reçut, tout comme il avait reçu son prénom Walt, de son grand-père Walt Gray, dont la fille, unique enfant, était sa mère. Dans ma toute petite enfance, alors que je n'avais qu'environ 2 ans, je fus emmené à Londres, car la guerre civile entre le roi et le Parlement ayant alors éclaté, mon père, qui était favorable au Parlement, bien qu'il ne prît pas les armes, ne se croyant pas en sécurité dans sa demeure de campagne, trop proche de certaines garnisons du roi, se rendit à Londres, cette ville tenant alors pour le Parlement. C'est là que je fus élevé, non sans beaucoup de difficultés, l'air de la ville ne convenant pas à ma constitution délicate, et j'y demeurai jusqu'à ce qu'Oxford eût capitulé et que la guerre, en apparence, fût terminée. Durant ce temps, mes parents firent connaissance et se lièrent d'une étroite amitié avec Lady Springett, qui, étant alors la veuve de Sir William Springett, mort au service du Parlement, devint ensuite l'épouse d'Isaac Pennington asterisque Phil, aîné de l'échevin Pennington de Londres. Et cette amitié se transmettant des parents aux enfants, je devins très tôt un camarade de jeu particulier de sa fille Gulielma, qui devint plus tard l'épouse de William Penn, étant admis, à ce titre, à monter avec elle dans son petit carrosse, tiré par son valet de pied, autour de Lincoln's Inn Fields. Je le mentionne ici, parce que la continuation de cette connaissance et de cette amitié, ayant été un moyen occasionnel par lequel je fus ensuite conduit à la connaissance de la bienheureuse vérité, j'aurai souvent, au fil de l'exposé suivant, l'occasion de faire une honorable mention de cette famille, envers laquelle j'ai tant et de si grandes obligations. Astérisque Isaac Pennington devint plus tard un éminent ministre Quaker et aussi un excellent écrivain. Sur ce site se trouvent sa biographie et de nombreuses œuvres exemplaires, notamment « Babylone la Grande », « D'extraordinaires lettres d'encouragement »,« La grande apostasie à l'âme haletante » et « Un catéchisme ». Son épouse, Mary Pennington, partage également les détails de sa conversion spirituelle dans la biographie. Elwood écrivit un excellent résumé et un témoignage sur la vie d'Isaac Pennington, également disponible sur ce site. Je fus envoyé à l'école gratuite de Same, dans l'Oxfordshire, qui à cette époque jouissait d'une bonne réputation, et je progressai rapidement, ayant alors une propension naturelle pour l'étude, si bien qu'à la première lecture de ma leçon, j'en devenais généralement maître, et pourtant, chose étrange à penser, peu de garçons dans l'école usèrent plus de verge que moi. Car bien que je n'eusse jamais, à ce que je me rappelle, été fouetté pour ne pas avoir su ma leçon pour l'avoir mal récitée, néanmoins, étant un petit garçon remuant, plein d'entrain, à l'esprit actif et à la main affairée, je ne pouvais pas facilement me conformer aux règles graves et sobres et comme je le pensais alors, sévères de l'école, mais je faisais souvent quelques farces ou autres parmi mes camarades, ce qui m'exposait à la correction, si bien qu'il m'est arrivé de subir la discipline de la verge 2 fois dans une même matinée. Si j'avais été maintenu dans cette école, ayant tant voulu avancer vers une autre plus élevée, j'aurais probablement pu devenir un érudit, car on remarquait que j'avais un esprit propre à apprendre. Dès que le gouvernement républicain commença à se stabiliser, mon père, ayant accepté la charge de juge de paix, qui n'était nullement lucrative, mais seulement honorifique, et à tous égards coûteuse, et s'étant engagé dans un train de vie qui correspondait, et ayant aussi retiré mon frère de l'école de Thame pour le mettre au Merton College d'Oxford, où il l'inscrivit dans la condition la plus élevée et la plus coûteuse d'un fellow commoné, il jugea nécessaire de réduire ses dépenses ailleurs, et c'est moi qui en pâtis. Car il me retira alors de l'école, pour économiser le coût de mon entretien, ce qui ressemblait un peu à cueillir un fruit vert de l'arbre, et à le mettre de côté avant qu'il n'ait atteint sa maturité, ce qui le fera se rider et se flétrir, et perdre ce peu de jus et de saveur qu'il commençait à avoir. Il m'en advint exactement ainsi. Car étant ramené à la maison alors que j'étais encore jeune, et avant d'être bien établi dans mes études bien que j'eusse fait de bons progrès en latin et que j'eusse commencé le grec, étant trop laissé à moi-même pour travailler ou jouer avec mes livres, ou sans eux comme bon me semblait, je me séparai bientôt de mes livres en les secouant littéralement de mes mains, et en les mettant peu à peu tout fait de côté, et je m'adonnai à ces divertissements et plaisirs de jeunesse que le lieu offrait et que ma condition me permettait. Ainsi je continuai, me livrant à ces voies vaines qu'on tenait pour des récréations inoffensives, divertissant mes compagnons et mes connaissances familières par d'agréables propos dans nos conversations, par la seule force de l'esprit naturel et des dons innés, sans l'aide de la culture scolaire, et l'on me tenait pour une agréable compagnie. Mais je fréquentais toujours des personnes d'esprit, de tempérance et de sobriété, car j'avais en horreur les grossièretés dans la conversation, et j'avais une aversion naturelle pour l'ivrognerie. Ainsi, au temps de ma plus grande vanité, je fus préservé de l'irréligion et des mots plus grossiers du monde, ce qui me rendait acceptable aux personnes les plus considérées de cette contrée alors. Je me souviens d'un incident survenu alors que je voyageais avec mon père en carrosse. Le cocher emprunta un chemin à travers un champ de blé, et le fermier s'en irrita fort, bien que ce passage fût communément utilisé comme chemin et que le blé n'eût pas été endommagé. Au retour, le fermier arrêta le carrosse et nous menaça armés de gourdins. Mon père m'ordonna de les désarmer. Il leva son bâton d'une manière menaçante et je tirai aussitôt mon épée et la pointai dans sa direction. Heureusement, il bondit en arrière, sans quoi il eût été transpercé jusqu'à la garde. Il s'enfuit et je le poursuivis, mais je le perdis. Ainsi nous continuâmes notre chemin de retour à la maison. Ce récit a été abrégé par souci de brièveté. À ce moment-là, et pendant assez longtemps après, je n'eus aucun regret en mon esprit pour ce que j'avais fait et voulu faire en cette occasion, mais je poursuivis dans une sorte de bravade résolue à tuer, si je le pouvais, tout homme qui tenterait la même chose ou nous ferait un affront. Et pour cette raison je sortais rarement ensuite pour ces services publics sans un pistolet chargé dans ma poche. Mais lorsqu'il plut au Seigneur, dans son infinie bonté, de m'appeler hors de l'esprit et des voies du monde, et de me donner la connaissance de sa vérité salvatrice, par laquelle les actions de ma vie passée furent mises en ordre devant moi, une sorte d'horreur me saisit, quand je considérai combien j'avais été près de souiller mes mains de sang humain. Et chaque fois que, par la suite, je passais par là, et en vérité aussi souvent depuis que cette affaire m'est revenue en mémoire, mon âme a béni le Seigneur pour ma délivrance, et des actions de grâce et des louanges se sont élevées dans mon cœur, comme maintenant, en le racontant, elles le font envers celui qui me préserva et me retint de verser le sang de l'homme. C'est pourquoi j'ai donné ce récit de cette action, afin que d'autres en soient avertis. J'ai mentionné plus haut que, durant le séjour de mon père à Londres, au temps des guerres civiles, il s'était lié d'amitié avec Lady Springett, alors veuve, puis mariée à Isaac Pennington, pour entretenir cette relation, il leur rendait parfois visite dans leur logement de campagne, comme à Datchet et à Cosham Lodge, près de Reading. Et ayant appris qu'ils étaient venus habiter sur leur propre domaine à Chalfont, dans le Buckinghamshire, à environ 15 milles de Crowell, il alla un jour leur rendre visite, avec l'intention de revenir le soir, et m'emmena avec lui. Mais nous fûmes très surpris lorsque, arrivés là, nous apprîmes d'abord, puis constations, qu'ils étaient devenus Quakers, un peuple que nous ne connaissions pas, et un nom dont jusque-là, nous avions à peine entendu parler. Un changement si grand, d'une conduite libre, aimable et mondaine, telle que nous les avions autrefois connus, à une gravité si stricte, avec laquelle ils nous reçurent à présent, ne nous étonna pas peu, et nous fûmes déçus, nous qui attendions une visite aussi agréable que celle que nous avions coutume d'avoir, et que nous nous étions promis d'avoir encore. Mon père ne put pas non plus avoir l'occasion, par un entretien privé avec eux, de comprendre le fondement ou la cause de ce changement, car il y avait avec eux d'autres étrangers, parents d'Isaac Pennington, arrivés ce matin-là de Londres pour leur rendre visite également. Pour ma part, je cherchais et finis par trouver un moyen de me glisser dans la compagnie de la fille Gully, qui devint plus tard l'épouse de William Penn, que je trouvais en train de cueillir des fleurs dans le jardin, accompagnée de sa servante, qui était aussi Quaker. Mais lorsque je m'adressais à elle selon ma manière habituelle, avec l'intention de l'engager dans quelque échange qui pût introduire une conversation sur la base de notre ancienne familiarité, bien qu'elle me traitât avec courtoisie, la gravité de son regard et de sa conduite, jeune qu'elle fût, m'inspira une telle crainte respectueuse que je ne me sentis pas assez maître de moi pour poursuivre plus avant avec elle. Ainsi, lui demandant pardon de ma hardiesse de m'être introduit dans ses promenades privées, je me retirai, non sans quelque trouble, du moins le crus-je d'esprit. Nous restâmes pour dîner, qui fut très soigné, et auquel il ne manquait rien pour me le rendre agréable, sinon l'absence de gaieté et d'agréables échanges, que nous ne pouvions avoir ni avec eux, ni à cause d'eux, entre nous, le poids qui reposait sur leurs esprits et leurs visages réprimait la légèreté qui se serait manifestée en nous. Nous demeurâmes, néanmoins, jusqu'à ce que le reste de la compagnie prît congé d'eux, puis nous fîmes de même et repartîmes, peu satisfaits de notre voyage, sans savoir précisément à quoi nous en prendre. Pourtant, cette visite eut sur mon père ce bon effet, lui qui siégeait alors à la commission de la paix. Elle le disposa à une opinion plus favorable de ces gens-là et à une conduite plus bienveillante envers eux lorsqu'il les rencontrerait, comme cela arriva peu après. car un jeune homme qui vivait dans le Buckinghamshire vint, un premier jour, à l'église ainsi nommée d'un bourg appelé Chiney, à 1 mile de Crowell, ayant, semble-t-il, une pression intérieure de dire quelque chose au ministre de cette paroisse. C'était une de mes connaissances, et il m'attira parfois à l'entendre, comme ce jour-là. Le jeune homme resta debout dans l'allée, devant la chaire, durant tout le sermon, sans dire un mot jusqu'à ce que le sermon et la prière qui le suivaient fussent terminés, puis il adressa quelques mots au prêtre. De tout cela, je ne pus entendre que « la prière des méchants est en abomination au Seigneur, et Dieu n'écoute pas les pécheurs ». Il dit, je crois, quelque chose de plus, que je ne pus entendre distinctement à cause du bruit que faisaient les gens, et il aurait probablement dit davantage s'il n'avait été interrompu par les officiers, qui le saisirent et l'emmenèrent pour le conduire devant mon père. Lorsque je le sus, je m'hâtai de rentrer, afin de donner à mon père un récit exact de l'affaire avant leur arrivée. Je lui dis que le jeune homme s'était comporté calmement et paisiblement, n'avait dit un mot qu'après que le ministre eut entièrement achevé son service, et que ce qu'il avait alors dit était bref et prononcé sans passion ni mauvais langage. Je savais que cela fournirait à mon père un bon fondement pour relâcher l'homme s'il le voulait. En conséquence, lorsqu'ils arrivèrent et portèrent une grande plainte contre l'homme, qui disait pour sa défense, mon père, ayant interrogé les officiers qu'il avait amenés sur les mots qu'il avait prononcés sur lesquels il n'était pas bien d'accord, et sur le moment où il les avait prononcés, ce sur quoi ils s'accordaient tous, après que le ministre eut terminé, puis pour savoir s'il avait adressé au ministre des paroles injurieuses ou cherché à susciter un tumulte parmi le peuple, ce dont il ne pouvait l'accuser, ne trouvant pas qu'il eût enfre. Ce dont je me réjouis. Quelque temps après cela, mon père, ayant obtenu d'autres renseignements sur les gens appelés Quakers, et désireux d'être informé de leurs principes, rendit une autre visite à Isaac Pennington et à son épouse dans leur maison appelée La Grange, à Pitechalfont, et il emmena mes deux sœurs et moi. C'était au 10e mois, en l'année 1659, que nous y allâmes, où nous fûmes reçus avec beaucoup de bonté, et y demeurâmes quelques jours, un jour au moins de plus, car pendant que nous y étions, une réunion fut annoncée en un lieu à environ 1 mile de là, à laquelle nous fûmes invités à nous rendre, et nous y allâmes volontiers. Elwood avait alors 20 ans, lorsqu'il fut introduit à la vérité. Elle se tenait dans une ferme appelée Le Grove, qui, ayant autrefois été la demeure d'un gentilhomme, possédait une très grande salle, bien remplie. À cette réunion vint Edward Burroughs, outre d'autres prédicateurs tels que Thomas Curty et James Naylor. Mais nul n'y parla alors sinon Edward Burroughs, auprès duquel, comme sous lui, il m'échut de m'asseoir sur un tabouret à côté d'une longue table où il était assis, et j'absorbais ses paroles avec désir, car non seulement elles répondaient à mon entendement, mais elles réchauffaient mon cœur d'une certaine ardeur, que je n'avais jusque-là ressentie sous le ministère d'aucun homme. Lorsque la réunion fut terminée, nos amis nous ramenèrent chez eux, et après le souper, les soirées étant longues, on fit venir les serviteurs de la maison, qui étaient Quakers, et nous nous assîmes tous en silence. Mais nous n'étions pas assis depuis longtemps qu'Edward Burroughs commença à parler parmi nous. Quoiqu'il ne parlât pas longtemps, ce qu'il dit toucha, je suppose, le bail religieux de mon père, comme on dit. Mon père, ayant été dès sa jeunesse un homme religieux, sans toutefois s'être joint à ce qu'on appelle la communion étroite d'aucun groupe, et se piquant de la connaissance qu'il estimait avoir des diverses notions de chaque profession, pensa qu'il avait là une belle occasion de montrer son savoir, et se mit alors à faire des objections contre ceux qui avaient été exposés. Le sujet de la discussion était « la grâce universelle et gratuite de Dieu envers tous les hommes », à quoi Edward Burroughs opposait le principe calviniste de la prédestination particulière et personnelle, et mon père, voulant défendre cette notion indéfendable, se trouva plus embarrassé qu'il ne s'y attendait. Edward Burroughs ne lui répondit pas beaucoup, quoiqu'il dit des choses serrées et solides, mais James Naylor, intervenant, traita le sujet avec tant de clarté et de démonstration évidente que son raisonnement paraissait irrésistible, et je suppose que mon père le trouva tel, ce qui le rendit disposé à laisser tomber la discussion. Quant à Edward Burroughs, c'était un jeune homme vif, à la langue prompte, et il aurait pu, pour tout ce que j'en savais alors, être un érudit, ce qui m'amenait à moins admirer sa manière de raisonner. Mais ce que j'entendis de James Naylor eut plus de force sur moi, parce qu'il n'avait l'air que d'un simple homme de campagne, avec l'apparence d'un laboureur ou d'un berger. De même que mon père n'était pas capable de soutenir l'argument de son côté, de même il ne semblait pas disposé à le pousser à l'extrême du leur, mais le traitant d'une manière douce et aimable, ils laissèrent au bout d'un moment tomber la discussion, et nous nous retirâmes ensuite dans nos chambres respectives. Le lendemain matin, nous nous préparâmes à rentrer, c'est-à-dire mon père, ma sœur cadette et moi, car ma sœur aînée était auparavant partie à Londres par la diligence. Et lorsque, ayant pris congé de nos amis, nous sortîmes, eux avec Edward Burroughs nous accompagnèrent jusqu'à la porte, où il adressa à chacun de nous quelques mots séparément, selon le discernement qu'il avait de nos conditions respectives. Lorsque nous nous fûmes éloignés et qu'ils furent rentrés, ils lui demandèrent ce qu'ils pensaient de nous, et il leur répondit, comme ils me le dirent ensuite, en substance, « Quant au vieil homme, il est arrêté dans ses voies, et la jeune femme est légère et frivole, mais le jeune homme est touché, et pourra bien faire s'il ne le perd pas. » Assurément, ce qu'il me dit, ou plutôt l'esprit dans lequel il le dit, s'empara de moi si fortement que je sentis une tristesse et un trouble m'envahir, bien que je ne comprisse pas distinctement de quoi j'étais troublé. Je ne savais pas ce qui m'arrivait, mais je savais qu'il m'arrivait quelque chose de plus qu'à l'ordinaire, et mon cœur était très lourd. Je désirais aller à une autre réunion des Quakers, et je demandai au domestique de mon père de s'informer s'il y en avait une dans les environs. Il me dit alors qu'il avait entendu, chez Isaac Pennington, qu'il devait y avoir une réunion à High Wycombe jeudi prochain. J'y allai donc, bien que ce fût à 7 miles de chez moi, et afin que l'on me crût plutôt parti faire la fête qu'aller à une réunion, je laissai mon lévrier courir à côté de mon cheval. Lorsque j'y arrivai, et que j'eus mis mon cheval à l'écurie dans une auberge, je ne savais comment trouver la maison où devait se tenir la réunion. Je ne la connaissais pas, et j'avais honte de demander où elle se trouvait. Ainsi, ayant ordonné au garçon d'écurie de prendre soin de mon chien, je sortis dans la rue et me tins à la porte de l'auberge, songeant en moi-même à ce que je devais faire. Mais je n'étais pas resté longtemps là que je vis un cavalier passer dans la rue, que je reconnus pour l'avoir déjà vu chez Isaac Pennington, et qui mit son cheval à la même auberge. Je résolus donc de le suivre, supposant qu'il se rendait à la réunion, ce qui était bien le cas. Étant arrivé à la maison, qui s'avéra être celle de John Rones, je vis les gens assis ensemble dans une pièce extérieure. J'entrai donc, et m'assis sur le premier siège libre, à l'extrémité d'un banc juste à l'intérieur de la porte, mon épée à mon côté et vêtu de noir, ce qui attira quelques regards sur moi. Peu de temps après, un homme se leva et parla. Je fis ensuite bien connaissance avec lui, il s'appelait Samuel Thornton, et ce qu'il dit me convenait beaucoup et me fut d'un bon secours, car cela m'atteignit au plus intime comme si cela s'adressait à moi. Aussitôt la réunion terminée et les gens commençant à se lever, moi qui étais près de la porte, je sortis rapidement et, me hâtant vers mon auberge, je montai à cheval immédiatement pour rentrer, et d'autant que je m'en souvienne, mon absence ne fut pas remarquée par mon père. Convaincu de la vérité, cette dernière réunion fut comme le coup de marteau qui enfonce un clou, confirmant et fixant dans mon esprit ces bons principes qui s'étaient imprimés en moi lors de la première. Mon entendement commença à s'ouvrir, et je sentis certains mouvements dans ma poitrine, tendant à l'œuvre d'une nouvelle création en moi. Le trouble général et la confusion d'esprit, qui pendant quelques jours avaient pesé lourdement sur moi et m'avaient accablé, sans que je découvre distinctement la cause particulière pour laquelle cela venait, commencèrent maintenant à se dissiper, et quelques lueurs de lumière commencèrent à jaillir en moi, me laissant voir mon état intérieur et ma condition devant Dieu. La lumière, qui auparavant avait brillé dans mes ténèbres, et que les ténèbres ne pouvaient saisir, commença maintenant à resplendir hors des ténèbres, et me découvrit en quelque mesure ce qui m'avait auparavant obscurci, et avait fait venir sur moi cette tristesse et ce trouble. Je vis maintenant que, bien que j'eusse été en grande partie préservé des immoralités communes et des souillures grossières du monde, l'esprit du monde avait néanmoins, jusque-là, régné en moi, et m'avait conduit à l'orgueil, à la flatterie, à la vanité et à la superfluité, tout cela n'étant rien. Je trouvai qu'il y avait en moi beaucoup de plantes qui n'étaient pas de la plantation du Père Céleste, et que toutes celles-là, de quelque sorte ou espèce qu'elles fussent, et quelque agréable qu'elles puissent paraître de manière trompeuse, devaient être arrachées. Alors toute ma vie passée fut mise à nu, et mes péchés peu à peu furent placés en ordre devant moi. Quoique leurs couleurs ne fussent pas si noires et leurs teintes si profondes que celles des gens les plus dissolus, je trouvai néanmoins que tout péché, même celui qui avait la plus belle ou la plus fine apparence, autant que ce qui était plus grossier et plus sale entraînait la culpabilité, et avec et pour la culpabilité, la condamnation sur l'âme qui péchait. Je le ressentis, et j'en fus profondément abattu. Je reçus alors aussi une loi nouvelle, une loi intérieure imposée par-dessus l'extérieur, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, qui agissait en moi contre tout mal, non seulement en actes et en paroles, mais même en pensée, de sorte que tout était amené en jugement, et que le jugement s'exerçait sur tout. Ainsi je ne pouvais plus continuer dans mes anciennes voies et mon ancien train de vie, car lorsque je le faisais, le jugement s'emparait de moi à cause de cela. Ainsi le Seigneur daigna gracieusement agir envers moi à peu près de la même manière qu'il avait agi envers son peuple Israël jadis lorsqu'il avait transgressé sa loi juste. Il les rappela par son prophète, leur demanda d'ôter le mal de leurs actions, leur ordonnant d'abord de cesser de faire le mal, puis d'apprendre à faire le bien, avant de leur permettre de raisonner avec lui, et avant de leur communiquer les effets de sa miséricorde gratuite, Ésaïe 1, 16-27. J'étais maintenant requis par cette loi intérieure et spirituelle, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, d'ôter le mal de mes actions et de cesser de faire le mal. Et quelle était en particulier cette chose mauvaise que l'on me demandait d'ôter et de quitter? La mesure de la lumière divine qui se manifestait alors en moi me le découvrit, et ce que la lumière manifestait comme mal, le jugement le condamnait. Ainsi commença à se dresser devant moi un chemin où marcher, un chemin direct et simple, si simple qu'un voyageur, si faible et simple fût-il un insensé selon la sagesse et le jugement du monde, ne pouvait s'y tromper tant qu'il continuait d'y marcher, l'erreur entrant lorsqu'il en sortait. Je vis que ce chemin, quant à moi, était cette mesure de lumière divine qui se manifestait en moi, par laquelle le mal de mes actions, ce que je devais ôter et quitter, m'était découvert. Cette lumière divine, je vis donc que bien que je n'eusse pas ôté le mal des impuretés communes, des débauches, des profanations et des souillures du monde, parce que par la grande bonté de Dieu et une éducation civile, j'avais été préservé de ces maux plus grossiers, j'avais pourtant beaucoup d'autres maux à ôter et à quitter, dont certains n'étaient pas, aux yeux du monde qui gît dans la méchanceté, 1 Jean 5, 19, considérés comme des maux, mais par la lumière du Christ, ils me furent manifestés comme des maux, et en tant que tels, compte. En particulier ces fruits, et effets de l'orgueil qui se découvrent dans la vanité et la superfluité de l'habillement, auxquels, dans la mesure de mes moyens, je prenais, hélas, trop de plaisir. On me demandait d'ôter ce mal de mes actions et d'y renoncer, et le jugement pesa sur moi jusqu'à ce que je le fisse. Ainsi, dans l'obéissance à la loi intérieure, qui s'accordait avec l'extérieur, 1 Tim 2, 9, 1 Pied 3, 3, 1 Tim 6, 8, Jacques 1, 21, j'ôtais de mes vêtements ces ornements inutiles de dentelles, rubans et boutons sans usage, qui ne servaient à rien de réel, mais étaient mis là seulement pour ce qu'on appelait à tort l'ornement, et je cessais de porter des bagues. Ensuite, l'habitude de donner aux hommes des titres flatteurs, alors qu'entre eux et moi, il n'existait aucune relation à laquelle de tels titres puissent prétendre appartenir. C'était un mal auquel je m'étais beaucoup adonné, et l'on me tenait pour un artisan habile en la matière, on me demanda donc aussi d'ôter et de cesser cette mauvaise pratique. Ainsi dès lors, je n'osais plus dire « ce master, milord, madame ou midame », ni dire « your servant » à quiconque envers qui je n'étais pas dans la relation réelle d'un serviteur, ce qui n'avait jamais été mon cas. Ensuite encore, l'acception des personnes partialité envers certaines classes, professions, etc. consistant à se découvrir la tête et à fléchir le genou ou le corps en salutation, était une pratique dont j'avais beaucoup usé, et cela, étant l'une des vaines coutumes du monde, introduite par l'esprit du monde. Au lieu du vrai honneur, c'est une fausse représentation, utilisée dans la tromperie comme signe de respect entre personnes qui ne se portent aucun respect véritable. Et de plus, ceci étant un type et un emblème propre de l'honneur divin que tous doivent rendre à Dieu Tout-Puissant, et dans lequel tous, de toutes sortes, qui prennent sur le nom chrétien, se présentent lorsqu'ils lui offrent leur prière, cela ne doit donc pas être donné aux hommes. Je trouvais que c'était l'un de ces maux que j'avais pratiqué trop longtemps, on me demanda donc maintenant de l'ôter et d'y renoncer. Commentaire de l'éditeur du site, à cette époque en Angleterre, on portait le chapeau à l'église, le clergé prêchait coiffé, on le portait à table, et en règle générale, plus couramment qu'à l'époque moderne, les rares occasions où l'on l'ôtait étaient plus nettement des occasions de respect. Un fils devait toujours se découvrir devant son père, tout le monde se découvrait devant le roi, et l'on se découvrait devant toute personne de classe ou de rang, telle que la noblesse. Les Quakers appelèrent cela « l'honneur du chapeau », qu'ils refusaient de rendre à l'homme, y compris au juge au tribunal, ce qui entraîna pour eux des amendes ou l'emprisonnement pour avoir refusé de se découvrir en signe d'honneur. Ils n'ôtaient leur chapeau que pour la prière, comme acte de culte. Ainsi, ils inversèrent, elle, honneur du chapeau, au lieu de ce que la société rendait à l'homme en le refusant à Dieu, ils le rendirent à Dieu et le refusèrent à l'homme. Dans l'Écriture, l'inclination était réservée à Dieu, et s'incliner devant un homme revenait à l'honorer outre mesure. Ensuite encore, cette forme de langage corrompu et malsaine consistant à parler au pluriel à une seule personne, « yo » un seul, au lieu de « da », contraire au langage pur, simple et singulier de la vérité, dans une personne, et « yo » plus d'une, ce qui avait toujours été employé par Dieu envers les hommes, et par les hommes envers Dieu, ainsi que les uns envers les autres, depuis les plus anciens témoignages jusqu'à ce que des hommes corrompus ou des fins corrompus, en des temps plus tardifs et corrompus pour flatter, cajoler et agir. Commentaire de l'éditeur du site. À cette époque, l'usage de « di » et « thou » était enseigné dans les écoles comme les formes correctes pour s'adresser au singulier. Seuls les serviteurs et les gens de condition inférieure étaient interpellés au singulier « di » et « thou ». Les gens de rang supérieur voulaient qu'on s'adresse à eux au pluriel « you » ce qui les honorait. Cet honneur rendu aux personnes importantes par le pluriel est ce que Dieu a abaissé dans la poussière. Le Seigneur manifesta son mépris de l'acception des personnes dues à la classe ou au rang et commanda ainsi à son peuple de faire de même. Aujourd'hui, les grammaires enseignent « you » et tout le monde est interpellé par « you » quelle que soit sa condition. Ainsi, employer you pour s'adresser à une seule personne n'est plus un honneur rendu à certains hommes qu'il faudrait abaisser dans la poussière. Ces coutumes mauvaises, et beaucoup d'autres encore, qui avaient surgi dans la nuit des ténèbres et de l'apostasie générale de la vérité et de la vraie religion, me furent alors peu à peu dévoilées, par le rayonnement de ce pur rayon de la lumière divine dans ma conscience, comme étant ce que je devais cesser de pratiquer, fuir, et contre quoi je devais rendre témoignage. Mais l'ennemi agit sur la part faible qui était en moi avec une subtilité, et en même temps une puissance telle, qu'il me persuada qu'en ces choses je devais faire une différence entre mon père et tous les autres hommes, et que, par conséquent, quoique je renonçasse à ces marques de respect envers les autres, je devais pourtant continuer de les lui témoigner, puisqu'il était mon père. À tel point ce stratagème prévalut sur moi, par la crainte de mal faire en retranchant à mon père quelque sorte de respect ou d'honneur qui lui était dû, que, ainsi abusé, je continuais quelque temps à me comporter envers lui de la même manière qu'auparavant, tant dans le langage que dans les gestes. Et tant que je le fis ainsi, demeurant tête nue devant lui et lui donnant les formules accoutumées, il n'exprima, quoi qu'il en pensât, aucun déplaisir à mon égard. Mais quant à moi, et à l'œuvre commencée en moi, je trouvai qu'il ne me suffisait pas de cesser de faire le mal, bien que ce fût un bon commencement et un grand pas. J'avais devant moi une autre leçon, apprendre à bien faire, ce que je ne pouvais aucunement faire tant que je n'avais pas renoncé, avec une pleine résolution d'esprit, à cesser de faire le mal. Quand j'eus fait cela, l'ennemi profita de ma faiblesse pour m'égarer de nouveau. Car alors que j'aurais dû attendre dans la lumière d'être dirigé et guidé, dans et vers la voie du bien faire, et ne pas bouger avant que l'Esprit divin, dont le Seigneur a bien voulu m'accorder une manifestation pour que j'en profite, ne m'y conduisit, l'ennemi, se transformant en apparence d'ange de lumière, se proposa, sous cette apparence, d'être mon guide et mon conducteur dans l'accomplissement d'exercices religieux. Moi, ne connaissant pas encore les ruses de Satan, et désireux de rendre à Dieu quelque service acceptable, je me livrai trop facilement à la conduite de mon ennemi au lieu de celle de mon ami. Alors, flattant l'ardeur et le zèle de mon esprit, il me poussa à des pratiques religieuses selon ma propre volonté, en mon propre temps et par mes propres forces, lesquelles, en elles-mêmes, étaient bonnes et m'auraient été profitables et agréables au Seigneur si elles avaient été accomplies dans sa volonté, en son temps et dans la capacité qu'il donne. Mais étant faite dans la volonté de l'homme et à l'instigation du malin, il n'est pas étonnant qu'elle me fisse du tort au lieu de me faire du bien. Je lisais abondamment la Bible, et je me fixais des tâches de lecture, m'enjoignant à moi-même de lire tant de chapitres, parfois tout un livre ou une longue épître d'un seul trait. Je croyais ce temps bien employé, quoique je ne fusse guère plus avancé par ce que j'avais lu, le lisant trop hâtivement, et sans le vrai guide, le Saint-Esprit, qui seul pouvait ouvrir l'intelligence et donner le vrai sens de ce qui était lu. Je priais souvent et j'allongeais fort mes prières. Je me fixais certains temps déterminés pour prier, et un certain nombre de prières à dire dans une journée. Et pourtant je ne savais pas pendant ce temps-là ce qu'était la vraie prière, qui ne consiste pas dans les mots bien que les mots prononcés sous l'impulsion du Saint-Esprit soient d'un grand effet, mais dans le souffle de l'âme vers le Père Céleste par l'opération du Saint-Esprit, qui intercède tantôt par des paroles et tantôt seulement par des soupirs et des gémissements, que le Seigneur promet. Ce culte de la volonté, qui n'est autre que tout ce qui est accompli dans la volonté de l'homme et non dans les mouvements du Saint-Esprit, me fit grand tort et entrava ma croissance spirituelle dans la voie de la vérité. Mais mon Père Céleste, qui connaissait la sincérité de mon âme envers lui et le vif désir que j'avais de le servir, eut compassion de moi, et en temps opportun, il voulut bien, dans sa grâce, éclairer davantage mon intelligence et ouvrir en moi un œil pour discerner l'esprit faux et sa manière d'agir, d'avec l'esprit vrai, afin de rejeter le premier et de m'attacher au second. Mais quoique l'ennemi eût, par sa subtilité, pris de tels avantages sur moi, je poursuivis néanmoins et persévérai fermement dans ma résolution pieuse de cesser et de renier ces choses dont j'étais maintenant convaincu, en ma conscience qu'elles étaient mauvaises. Mon père m'envoya faire une course au tribunal des quartiers session dans l'Oxfordshire. Après avoir mis mon cheval à l'écurie, j'allai directement à la salle où se tenaient les sessions. Je n'y étais que depuis très peu de temps qu'un groupe de mes anciennes connaissances, m'ayant aperçu, vint à moi. L'un d'eux était un étudiant en robe, un autre un chirurgien de cette ville, tous deux mes condisciples et compagnons de pension à l'école de Same, et le troisième un gentilhomme campagnard avec qui j'avais de longue date été en familiarité. Lorsqu'ils furent venus vers moi, ils me saluèrent tous à la manière ordinaire, ôtant leurs chapeaux et s'inclinant en disant « Votre humble serviteur, monsieur, s'attendant sans doute à recevoir de moi la même chose ». Mais quand ils me virent rester immobile, sans remuer mon chapeau ni fléchir le genou en manière de révérence envers eux, ils en furent stupéfaits. Et ils se regardèrent d'abord l'un l'autre, puis me regardèrent, puis se regardèrent encore un moment sans dire un mot. Enfin, le chirurgien, un jeune homme vif qui se tenait le plus près de moi, me tapa familièrement la main sur l'épaule et me souriant dit « Quoi, Tom, un Quake ?» À quoi je répondis aussitôt et gaiement « Oui, un Quake. » À mesure que ces mots sortaient de ma bouche, je sentis la joie jaillir dans mon cœur, car je me réjouissais de n'avoir pas été entraîné par eux à me conformer à leurs usages, et que la force et l'audace m'eussent été données pour confesser que j'étais l'un de ce peuple méprisé. Ils ne restèrent pas longtemps avec moi ni ne me dirent davantage, du moins à ce que je me rappelle, mais se regardant l'un l'autre d'un air quelque peu embarrassé, ils prirent au bout d'un moment congé de moi, s'en allant avec la même manière cérémonieuse qu'à leur arrivée. Mais bien que je trouvasse paix et acceptation auprès du Seigneur à un bon degré, selon mon obéissance aux convictions que j'avais reçues par son Saint-Esprit en moi, le voile n'était pas ôté, ni pleinement déchiré, au point qu'il ne demeura encore un nuage sur mon intelligence quant à ma conduite envers mon Père. Cette idée que l'ennemi avait mise dans mon esprit que je devais établir une telle différence entre lui et tous les autres que, à cause de la relation paternelle, je devais continuer à me comporter envers lui, tant par les gestes que par le langage, comme je l'avais toujours fait auparavant, prévalait encore sur moi. De sorte que, lorsque je rentrais à la maison, j'allais vers mon père tête nue, comme je le faisais d'ordinaire, et je lui rendis un compte particulier de l'affaire qu'il m'avait commandée, d'une manière telle que, ne remarquant aucun changement dans ma conduite envers lui, il ne trouva aucun motif de s'offenser de moi. Depuis quelque temps déjà, j'éprouvais un vif désir d'esprit de retourner chez Isaac Pennington, et je commençais à me demander si, lorsque mon père viendrait à comprendre, comme je pensais qu'il le ferait sous peu que j'inclinais à m'établir parmi les gens appelés Quakers, il me permettrait encore de disposer de ses chevaux, comme auparavant. C'est pourquoi, le matin où je partis pour Oxford, je donnai ordre à un de ses serviteurs d'aller ce jour-là chez un gentilhomme de ma connaissance, dont je savais qu'il avait un petit cheval de selle à céder soit par vente, soit gardé pour son travail, et je le priai de ma part de me l'envoyer, ce qu'il fit, et je le trouvai à l'écurie lorsque je rentrai. Sur ce cheval, je projetais de me rendre le lendemain chez Isaac Pennington, et je m'y préparai. Mais parce que je voulais rendre à mon père tout le respect qui lui était dû et ne pas partir sans son consentement, ou du moins sans qu'il en eût connaissance, j'envoyai quelqu'un vers lui, car il n'était pas encore levé, pour l'informer que j'avais l'intention d'aller chez Isaac Pennington, et pour lui demander s'il voulait me commander quelques services pour eux. Il me fit dire qu'il parlerait avec moi avant que je ne parte et qu'il voulait que je monte le voir, ce que je fis me tenant près de son lit. Alors, d'un ton doux et tranquille, il dit « J'entends que vous avez envie d'aller chez M. Pennington. » Je répondis « C'est vrai. »« Eh bien, dit-il, je m'étonne que vous le vouliez. Vous y étiez, vous le savez, il n'y a que quelques jours, et à moins que vous n'ayez affaire avec eux, ne pensez-vous pas que cela paraîtra étrange ?» Je dis « Je ne le pense pas. » « Je crains, dit-il, que vous ne les lassiez de votre compagnie et que vous ne leur fassiez croire qu'ils vont être importunés par vous. » « Si, répondis-je, je m'aperçois de quelque chose de cela, je ferai un séjour plus court. Mais, dit-il, pouvez-vous vous proposer quelque sorte d'affaire avec eux au-delà d'une simple visite ?»« Oui, dis-je, je me propose non seulement de les voir, mais d'avoir quelques discussions avec eux. Pourquoi, dit-il d'un ton un peu plus dur, j'espère que vous n'inclinez pas à être de leur voix. » « Vraiment, répondis-je, je les aime, eux et leur voix, autant que je la comprends jusqu'ici, et je suis disposé à aller vers eux afin de la comprendre mieux. » Alors il se mit à énumérer une liste de reproches contre les Quakers, me disant qu'ils étaient un peuple grossier et mal élevé, qui ne rendait pas le respect civil ni l'honneur à ses supérieurs, pas même aux magistrats, qu'ils soutenaient beaucoup de principes dangereux, qu'ils étaient un peuple impudique et sans honte, et que l'un d'entre eux s'était dépouillé et était allé entièrement nu astérisque parcourant ainsi les rues, aux foires et les jours de marché, dans les grandes villes. Astérisque d'après le journal de Fox, William Simpson fut poussé par le Seigneur, à plusieurs reprises pendant 3 ans, à aller nu et pieds nus devant eux comme signe pour eux, sur les marchés, dans les tribunaux, les bourgs, les villes, aux maisons des prêtres et aux maisons des grands, leur disant « Ainsi serez-vous dépouillés nus comme je suis dépouillé nu. » Et parfois, il fut poussé à revêtir un cilice de crin, à se barbouiller le visage, et à leur dire « Ainsi le Seigneur Dieu barbouillera toute votre religion comme je suis barbouillé. » Ce pauvre homme endura de grandes souffrances, de rudes coups de fouet de cheval et de fouet de carrosse sur son corps nu, de douloureux lapidements et des emprisonnements dans l'espace de 3 ans avant le retour du roi, afin qu'ils eussent pu recevoir avertissement. Mais ils ne le voulurent pas et récompensèrent son amour par une cruauté inhumaine. Seul le maire de Cambridge le traita noblement, car il mit sa robe autour de lui et le conduisit chez lui. À toutes les autres accusations, je ne répondis que qu'il se pouvait que cela fût soit mal rapporté, soit mal compris, comme il était arrivé parfois au meilleur. Mais à la dernière accusation, celle d'aller nu, une réponse particulière, à titre d'exemple, me vint alors à l'esprit et se mit dans ma bouche à quoi je n'avais pas pensé auparavant, à savoir l'exemple d'Ésaïe, qui alla nu parmi le peuple longtemps, Ecclus 22. Oui, dit mon père, mais vous devez considérer qu'il était prophète du Seigneur et qu'il avait un commandement exprès de Dieu pour agir ainsi. Oui, monsieur, répondis-je, je le considère. Mais je considère aussi que les Juifs parmi lesquels il vivait ne le reconnaissaient pas pour prophète, ni ne croyaient qu'il eût un tel commandement de Dieu. Et ajoutai-je, comment savons-nous que ce Quake ne peut pas être prophète aussi, et qu'il n'a pas pu être commandé de faire comme lui, pour quelque raison que nous ne comprenons pas? Cela arrêta mon père, de sorte que, laissant tomber ses accusations contre les Quakers, il dit seulement, « Je souhaiterais que vous n'y alliez pas si tôt, mais que vous preniez un peu de temps pour y réfléchir. » Vous pourrez rendre visite plus tard à M. Pennington. Non, monsieur, répondis-je, je vous prie de ne pas m'empêcher d'y aller maintenant, car j'ai un désir si fort d'y aller que je ne sais guère comment y résister. Et, en disant ces mots, je me retirai doucement vers la porte de la chambre, puis, me hâtant dans l'escalier, j'allai immédiatement à l'écurie, et trouvant mon cheval prêt bridé, je montai vite et partis, de peur de recevoir un contre-ordre. Cette discussion avec mon père m'avait un peu retardé dans mon trajet, et comme il y avait 15 longues milles, les chemins mauvais et mon petit cheval peu vigoureux, ce fut l'après-midi que j'y arrivai. Apprenant par le serviteur qui prit mon cheval qu'il y avait une réunion dans la maison, comme il y en avait chaque semaine ce jour-là, qui était le quatrième jour de la semaine, quoique je ne l'eusse pas su jusque-là, je m'hâtai d'entrer, et connaissant les pièces, j'allai directement au petit salon, où je trouvai quelques amis assis ensemble en silence, et je m'assis parmi eux bien satisfait quoique sans parole. Quand la réunion fut terminée et que ceux de l'assistance qui étaient étrangers se furent retirés, je m'adressai à Isaac Pennington et à sa femme, qui me reçurent courtoisement. Mais ne sachant pas quelle épreuve j'avais traversée et sous laquelle j'étais encore, et n'ayant rien entendu de moi depuis ma précédente visite où je portais un autre habit, ils ne se hâtèrent pas d'abord de me prendre brusquement à bras-le-corps. Je le remarquai et ne m'en déplais pas. Mais lorsqu'ils virent un changement en moi, non seulement d'habillement, mais de gestes, de paroles et de maintien, et ce qui était plus, de visage aussi, car l'épreuve par laquelle j'étais passé, et sous laquelle j'étais encore, avait imprimé un caractère visible de gravité sur ma face, ils furent extrêmement bons et tendres envers moi. Il y avait alors dans la famille une amie nommée Anne Curti, épouse de Thomas Curti de Reading, venue leur rendre visite, et particulièrement pour voir Gully, la fille de Mary Pennington, qui avait eu la variole depuis ma précédente visite. Entre Mary Pennington et cette amie, j'observai quelques entretiens privés et chuchotements, et je pensais que cela concernait quelque chose qui me regardait. Je pris donc la liberté de demander à Mary Pennington si ma venue avait causé quelque inconvénient dans la famille. Elle me demanda si j'avais déjà eu la variole. Je lui dis que non. Elle me dit alors que sa fille l'avait eue récemment et que, bien qu'elle en fût bien remise, elle n'était pas encore descendue parmi eux. Elle avait toutefois l'intention de descendre et de s'asseoir avec eux dans le salon ce soir-là, mais préférait remettre cela à une autre fois plutôt que de me mettre en danger, et que c'était là le sujet de leur discussion. Je l'assurai que j'avais toujours été, et que j'étais alors plus particulièrement encore, sans aucune appréhension de danger à cet égard. Je la priai donc que sa fille descende. Quoique par égard pour moi, ils fussent un peu réticents à céder, mon insistance l'emporta, et après le souper elle descendit effectivement et s'assit avec nous. Et bien que les marques de la maladie fussent encore fraîches sur elle, elles n'eurent aucune prise sur moi, la foi chassant la crainte. Nous passâmes une grande partie de la soirée dans le recueillement, nos esprits étant fortement rassemblés au-dedans, de sorte qu'il y eut peu de discussions entre nous, eux ne m'en fournissaient pas l'occasion, ni moi à eux. Pourtant je trouvai une bonne satisfaction dans ce calme, sentant mon esprit attiré près du Seigneur, et d'eux, dans ce silence. Avant que je n'aille me coucher, ils me firent savoir qu'il devait y avoir une réunion à Wickham le lendemain, et que quelques personnes de la famille s'y rendraient. J'en fus fort aise, car je désirais vivement aller aux réunions, et cela tombait très heureusement, puisque c'était sur mon chemin du retour. Le lendemain matin, Isaac Pennington lui-même y alla, ayant Anne Curti avec lui, et je les accompagnai. À Wickham, nous rencontrâmes Edward Burroughs. C'était une réunion mensuelle, composée principalement d'amis qui y accouraient de diverses parties de la contrée d'alentour, de sorte qu'elle était assez nombreuse. Elle se tint dans une belle pièce de la maison de Jeremiah Stevens, la salle où j'avais assisté auparavant à une réunion chez John Rones étant trop petite pour nous recevoir. Ce fut en soi et pour moi une très bonne réunion. Le ministère d'Edward Burroughs se répandit parmi nous avec vie et puissance, et l'assemblée en fut couverte. Moi aussi, selon ma petite capacité, j'y pars, car je sentis une part de cette puissance divine travailler mon esprit à une grande tendresse, non seulement en me confirmant dans la voie où j'étais déjà entré et en me fortifiant pour y persévérer, mais en déchirant encore un peu davantage le voile et en éclaircissant mon intelligence sur d'autres choses que je n'avais pas vues auparavant. Car le Seigneur voulut bien me faire ces révélations par degrés, afin que la vue d'une œuvre trop grande et de trop nombreux ennemis à affronter tout à la fois ne me décourageât pas et ne me fît pas défaillir. Quand la réunion fut terminée, les amis de la ville, remarquant que j'étais l'homme qui avait été à leur réunion la semaine précédente, qu'ils ne connaissaient pas alors, vinrent pour certains me parler avec affection et auraient voulu que je reste chez eux. Mais Edward Burroughs retournant chez lui avec Isaac Pennington, il m'invita à revenir avec lui, ce à quoi je consentis volontiers. Car l'affection que j'avais plus particulièrement pour Edward Burroughs, par le ministère de qui j'avais reçu le premier coup d'éveil, me portait à désirer sa compagnie. Ainsi nous repartîmes à cheval ensemble. Mais je fus quelque peu déçu dans mon attente, car j'espérais qu'il m'aurait donné à la fois l'occasion et l'encouragement de m'ouvrir à lui et de répandre dans son sein mes plaintes, mes craintes, mes doutes et mes questions. Mais lui, sentant que j'avais été véritablement touché, que le témoin de Dieu était relevé et que l'œuvre de Dieu était bien commencée en moi, choisit de me laisser à la conduite du bon esprit en moi, le conseiller qui pouvait résoudre tous les doutes, afin que je ne devienne pas dépendant de l'homme. Ainsi bien qu'il fût par nature d'un caractère et d'un comportement ouverts et libres, et qu'ensuite il fût toujours très familier et affectueusement bon envers moi, pourtant, en ce temps-là, il se tint quelque peu réservé et ne me témoigna qu'une bienveillance ordinaire. Le lendemain, nous nous séparâmes, lui pour Londres, moi pour la maison, sous un très grand poids et une forte épreuve dans mon esprit, car je vis maintenant, dans et par les ouvertures plus grandes de la lumière divine en moi, que l'ennemi, par ses faux raisonnements, m'avait abusé et égaré quant à ma conduite envers mon père. Je vis clairement que l'honneur dû aux parents ne consistait pas à se découvrir la tête et à courber le corps devant eux, mais en une prompte obéissance à leurs commandements légitimes et dans l'accomplissement de tous les services nécessaires envers eux. Ainsi comme j'étais fort tourmenté de ce que j'avais déjà fait en ce cas, quoiqu'à cause de mon ignorance, je sentis néanmoins clairement que je ne pouvais plus continuer ainsi sans attirer sur moi la culpabilité d'une désobéissance volontaire, ce dont je savais bien que cela entraînerait la disgrâce et le jugement divin. Aussitôt l'ennemi m'assaillit de nouveau, mettant devant moi le danger où je m'exposerais en provoquant mon père à user de sévérité envers moi, et peut-être à me rejeter entièrement. Mais contre cette tentation, le Seigneur, à qui je criais, me soutint et me donna la foi de croire qu'il me ferait traverser tout ce qui pourrait m'arriver à ce sujet. Je résolus donc, dans la force qu'il me donnerait, d'être fidèle à ses exigences quoi qu'il en advînt. Son père commence à le battre parce qu'il est quick ainsi, peinant sous diverses épreuves en chemin, j'arrivai enfin à la maison, m'attendant à recevoir de mon père un accueil rude. Mais lorsque j'y entrai, j'appris que mon père était absent. Je m'assis donc près du feu dans la cuisine, gardant mon esprit retiré vers le Seigneur, avec des élans du cœur vers lui, afin d'être préservé de tomber. Au bout d'un moment, j'entendis la voiture entrer, ce qui me mit dans une légère crainte, et un frisson me parcourut. Mais lorsqu'il fut descendu et entré, je m'étais assez bien ressaisi, et dès que je le vis, je me levai et fis un pas ou deux vers lui, la tête couverte, et je dis « Isaac Pennington et sa femme se souviennent de leur affection pour toi ». Il s'arrêta pour entendre ce que je disais, et observant que je ne me découvrais pas tête nue, chapeautée et que je lui adressais le mot « dit », il ne dit d'un visage et d'un ton sévère qui ne marquait que son grand mécontentement. « Je vous parlerai, monsieur, une autre fois. » Puis, s'éloignant en hâte de moi, il entra dans le salon, et je ne le vis plus de la nuit. Bien que je prévisse qu'un orage s'élevait, dont l'appréhension m'était pénible, cependant la paix que je sentais en moi fit naître en mon cœur une action de grâce envers le Seigneur pour sa main secourable et gracieuse, qui m'avait jusque-là porté dans cette épreuve, avec d'humbles cris en esprit vers lui, afin qu'il voulût bien me promettre de demeurer près de moi jusqu'au bout et de me soutenir, pour que je ne tombe pas. Mon esprit languissait d'être parmi les amis et d'assister à quelques réunions avec eux le premier jour, qui approchait, puisque c'était alors la nuit du sixième jour. Je me proposai donc d'aller à Oxford le lendemain, qui était le septième jour de la semaine, ayant entendu dire qu'il y avait une réunion. En conséquence, ayant fait préparer mon cheval à l'avance, je me levai le matin et me préparai aussi. Cependant, avant de partir, afin de témoigner à mon père autant d'égards que je le pouvais, je priai ma sœur de monter le voir dans sa chambre et de l'informer que j'avais envie d'aller à Oxford, et de lui demander s'il voulait me commander quelque service là-bas. Il lui dit de me dire qu'il ne voulait pas que j'y aille avant de m'avoir parlé, et se levant aussitôt, il descendit en hâte vers moi avant même d'être tout à fait habillé. Dès qu'il me vit debout, le chapeau sur la tête, sa passion l'emportant, il se jeta sur moi à coups de poing, et ayant ainsi un peu laissé éclater sa colère, il m'arracha mon chapeau et le jeta au loin. Puis, sortant précipitamment à l'écurie et voyant mon petit cheval emprunté, prêt, scellé et bridé, il demanda à son domestique d'où venait ce cheval, celui-ci lui ayant dit qu'il l'avait pris chez M, je ne sais plus comment il s'appelle. Alors ramène-le sur le champ, dit mon père, et dit à M. Que je désire qu'il ne prête plus jamais de cheval à mon fils, à moins qu'il n'apporte un billet de ma part. Le pauvre garçon, qui m'aimait bien, aurait volontiers cherché des excuses et des délais, mais mon père fut catégorique dans son ordre, et si pressant, qu'il ne le laissa même pas s'attarder pour prendre son petit déjeuner, alors qu'il avait 5 000 à parcourir, et lui-même ne quitta pas l'écurie avant d'avoir vu l'homme monter et parti. Ensuite, rentrant, il monta dans sa chambre pour achever de se préparer, pensant que j'étais désormais assez en sûreté puisque mon cheval était parti, car j'avais tant de plaisir à monter à cheval que je sortais rarement à pied. Mais pendant qu'il s'habillait dans sa chambre, moi qui avais compris ce qui s'était fait, je changeai mes bottes pour des souliers, pris un autre chapeau, et informant ma sœur qui m'aimait beaucoup et en qui je pouvais avoir confiance de l'endroit où je comptais aller, je sortis en secret et partis à pied pour Wickham, ayant 7 longues milles à faire, qui pourtant me semblèrent peu de chaud et facile, tant je désirais être parmi les amis. Comme je cheminais ainsi tout seul, sous un poids de tristesse, sentant l'opposition et les rigueurs que j'avais à attendre de mon père, l'ennemi profita de l'occasion pour m'assaillir de nouveau, jetant dans mon esprit un doute sur la question de savoir si j'avais bien fait de partir ainsi de chez mon père sans sa permission ni sa connaissance. J'étais, avant que cette question ne fût lancée en moi, tranquille et paisible en esprit. Mais après cela, le trouble et l'angoisse s'emparèrent de moi, si bien que je ne savais plus que faire avancer ou reculer. La crainte d'offenser m'inclinait à retourner, mais le désir de la réunion et d'être avec les amis me pressait d'aller de l'avant. Je demeurai un moment immobile pour considérer et peser, autant que je le pouvais, la question. J'étais sensiblement satisfait de n'avoir pas quitté mon père avec l'intention de manquer à mon devoir ou de lui manquer de respect, mais seulement par obéissance à cet attrait de l'esprit, que j'étais persuadé venir du Seigneur, afin de m'unir à son peuple pour l'adorer, et cela me rendit paisible. Mais alors l'ennemi, pour me rendre de nouveau inquiet, objecta, « Mais comment cet attrait pourrait-il venir du Seigneur s'il te poussait à désobéir à ton père ?» Je considérai alors l'étendue du pouvoir paternel, et je trouvai qu'il n'était pas entièrement arbitraire ni sans limite, mais qu'il avait des bornes qui lui étaient fixées, de sorte que, comme dans les matières civiles il est restreint aux choses licites, de même, dans les cas spirituels et religieux, il n'a pas un pouvoir de contrainte sur la conscience, laquelle doit être soumise au Père Céleste. Ainsi, quoique l'obéissance aux parents soit requise des enfants, c'est avec cette limitation dans le Seigneur, « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste, F6.1. » Cela fit pencher la balance en faveur du fait d'avancer, et je continuai donc mon chemin. Pourtant je ne fus pas entièrement délivré de certaines fluctuations d'esprit, à cause des attaques de l'ennemi. Aussi, bien que je susse que les signes extérieurs n'appartenaient pas proprement à la dispensation de l'Évangile, je suppliai néanmoins le Seigneur, avec crainte et grande humilité, de bien vouloir condescendre jusque-là à la faiblesse de son serviteur, en me donnant un signe par lequel je pourrais savoir sûrement si ma voix était droite devant lui ou non. Le signe que je demandai fut, si j'avais mal fait de venir comme je venais, que je puisse être rejeté ou reçu avec froideur à l'endroit où j'allais, mais si cet entrepris était droit à ses yeux, qu'il me donne faveur auprès de ce vers qui j'allais, de sorte qu'il me reçoive avec une bonté sincère et des marques d'affection. En conséquence, lorsque j'arrivai chez John Rhodes, où, étant si étranger à tous, j'avais choisi d'aller parce que je savais que la réunion s'y tenait ordinairement, ils me reçurent avec plus qu'une bonté ordinaire, surtout France Rhodes, alors épouse de John Rhodes, qui était une femme à la fois grave et maternelle, ayant un amour chaleureux pour la vérité et une tendre sollicitude envers tous ceux qui, en sincérité, la recherchaient. Cet accueil si bienveillant, me confirmant dans la croyance que mon entrepris était approuvé du Seigneur, m'apporta une grande satisfaction et apaisa mon esprit, et j'en fus donc reconnaissant au Seigneur. Ainsi les choses se passèrent pour moi là-bas, mais à la maison, il en alla autrement avec mon père. Supposant que je m'étais retiré dans ma chambre lorsqu'il m'avait arraché mon chapeau, il ne s'enquit pas de moi avant le soir. Puis assis près du feu et considérant que le temps était fort froid, il dit à ma sœur, qui était auprès de lui, « Monte dans la chambre de ton frère et appelle-le pour qu'il descende. Il pourrait autrement rester là, dans une humeur boudeuse, jusqu'à prendre froid. »« Hélas, monsieur, dit-elle, il n'est pas dans sa chambre, ni même dans la maison. » À ces mots, mon père sursautant dit, « Comment, où est-il donc ? Je ne sais pas, monsieur, où il est ?» Mais je sais que lorsqu'il a vu que vous aviez renvoyé son cheval, il a mis des souliers et est sorti à pied, et je ne l'ai pas revu depuis. Et en vérité, monsieur, ajouta-t-elle, je ne m'étonne pas qu'il soit parti, vu la manière dont vous l'avez traité. Cela jeta mon père dans une grande frayeur, craignant que je fusse parti tout à fait, et une si vive passion de douleur s'empara de lui, qu'il pleura et cria à haute voix, de sorte que la maison l'entendit, « Ô mon fils ! Je ne le reverrai jamais, car il est d'un esprit si hardi et résolu qu'il se jettera dans le danger, et ainsi peut tomber dans quelque accident, où il peut rester et mourir avant que j'en entende parler. » Puis, lui demandant de l'accompagner avec une lumière, il monta dans sa chambre et se coucha aussitôt, où il demeura sans repos, gémissant et se lamentant souvent sur lui-même et sur moi, durant la plus grande partie de la nuit. Le lendemain matin, ma sœur envoya un homme dont, à cause de son affection pour moi, elle savait pouvoir se fier pour me rapporter cela, et bien que par lui elle m'envoya aussi du linge propre pour mon usage, au cas où je devrais aller plus loin ou rester dehors plus longtemps, elle me pria pourtant de rentrer à la maison dès que je le pourrais. Ce récit me fut très pénible. J'étais profondément affligée d'avoir causé à mon père tant de chagrin, et je serais rentrée ce soir-là après la réunion, mais les amis ne le permirent pas, car la réunion, très probablement, finirait tard, les jours étant courts, et le chemin long et boueux. De plus, John Rones me dit qu'il avait à l'esprit quelque chose à dire à mon père et que, si je voulais rester jusqu'au lendemain, il descendrait avec moi, espérant peut-être que, pendant que mon père serait dans cette tristesse à mon sujet, il pourrait produire quelque bien en lui. Ayant aussitôt décidé de rester jusqu'au lendemain, je renvoyai l'homme avec les choses qu'il avait apportées, en lui disant de dire à ma sœur que j'avais l'intention, Dieu voulant, de rentrer demain, et en lui recommandant de ne laisser personne d'autre savoir qu'il m'avait vu, ni où il était allé. Le lendemain matin, John Rones et moi partîmes, et arrivés à l'extrémité de la ville, nous convînmes qu'il irait devant frapper à la grande porte, et que je viendrais un peu après et entrerais par l'arrière. Il fit ainsi, et lorsqu'un domestique vint ouvrir la porte, il demanda si le juge de paix était à la maison. Elle lui dit que oui et, le priant d'entrer et de s'asseoir dans la salle, alla prévenir son maître qu'un homme désirait lui parler. Lui, supposant que c'était quelqu'un venu demander justice, alla volontiers dans la salle, mais il ne fut pas peu surpris lorsqu'il trouva que c'était un Quake. Pourtant, ne sachant pas pour quelle raison il venait, il resta pour entendre son affaire. Mais quand il comprit que cela concernait ma personne, il s'en prit à lui d'un ton assez vif. Pendant ce temps, j'étais entrée par l'arrière dans la cuisine, et entendant la voix de mon père si forte, je commençais à douter que les choses ne tournassent pas bien, mais je ne tardais pas à en être assurée. Car mon père, ayant vite assez de la compagnie d'un Quake, laissa John Rones dans la salle et vint dans la cuisine, où il fut plus surpris encore de me trouver. La vue de mon chapeau sur ma tête lui fit aussitôt oublier que j'étais ce fils qu'il avait, la veille encore si récemment déploré comme perdu, et sa douleur se changeant en colère, il ne put se contenir. Se précipitant sur moi à deux mains, il m'arracha d'abord violemment mon chapeau et le jeta au loin. Puis, me donnant quelques soufflets sur la tête, il dit « Drôle, monte dans ta chambre ». J'y montai rapidement, lui me suivant de près, et de temps à autre, me donnant un coup sur l'oreille. Et comme le chemin de ma chambre passait par la salle où se trouvait John Rones, ce pauvre homme pouvait le voir et en être affligé, comme je ne doute pas qu'il le fût, mais il ne pouvait pas m'aider. Il y avait là assurément quelque chose d'incompréhensible, que mon père eût exprimé, la veille encore, une si grande douleur à mon sujet, craignant de ne jamais me revoir, et que pourtant, dès qu'il me revoyait, il se jeta sur moi avec une telle violence, et seulement parce que je n'ôtais pas mon chapeau, chose qu'il savait que je ne faisais pas par irrespect envers lui, mais par principe religieux. Mais comme cet honneur rendu au chapeau ainsi qu'on le considérait, était devenu une grande idole, plus spécialement en ces temps-là, le Seigneur voulut bien engager ses serviteurs à un témoignage ferme contre cela, quelles que fussent les souffrances que cela leur attira. Bien que certains, appelés dans la vigne du Seigneur à des heures plus tardives, et après que la chaleur de ce jour eut beaucoup diminué, soient portés à regarder ce témoignage comme une petite chose, pour laquelle il serait excessif de souffrir tant comme quelques-uns l'ont fait jusqu'au cou, aux amendes et à de longs et durs emprisonnements. Néanmoins, ceux qui en ces temps-là en étaient fidèlement exercés et sous le poids de cette épreuve, n'osaient pas mépriser le jour des petites choses, sachant que celui qui le ferait ne serait pas jugé digne d'être employé. J'avais maintenant perdu un autre de mes chapeaux, et il ne m'en restait plus qu'un. Je le mis donc, mais je ne le gardai pas longtemps, car la fois suivante que mon père le vit sur ma tête, il me l'arracha violemment et le rangea avec l'autre, je ne suis vous. Je mis alors mon Mountie Cap astérisque qui était tout ce qui me restait à porter sur la tête, mais je ne le portai que très peu de temps, car dès que mon père vint là où j'étais, je le perdis aussi. Et maintenant j'étais contraint d'aller tête nue partout où j'avais occasion d'aller, dedans comme dehors, astérisque astérisque astérisque, un Mountie Cap est une coiffe de cavalier, avec des rabats pour couvrir les oreilles et les joues, particulièrement nécessaires par temps froid. Astérisque astérisque, toute personne dehors sans chapeau était considérée comme mentalement malade. C'était au 11e mois, appelez janvier le calendrier, Julien allait de mars à février, et le temps était vif. Moi qui avais été élevé plus délicatement, j'attrapai un rhume si violent à la tête que mon visage et ma tête en furent fort enflés, et mes gencives se couvrirent de furoncles si douloureux que je ne pouvais ni mâcher la viande ni, sans difficulté, avaler des liquides. Cela dura longtemps, et j'endurai beaucoup de douleurs sans grande compassion hormis celle de ma pauvre sœur qui fit ce qu'elle put pour me soulager. Et enfin, par de fréquentes applications de figues et de raisins secs dénoyautés, rôtis et posés sur les furoncles aussi chauds que je pouvais les supporter, ils mûrirent de manière à pouvoir être incisés, et peu après se résorbèrent, alors je fus soulagé. Je fus alors comme détenu prisonnier pour le reste de l'hiver, n'ayant aucun moyen de sortir pour être parmi les amis, ni eu la liberté de venir à moi. Je passai donc une grande partie du temps dans ma chambre, à attendre le Seigneur et à lire, principalement la Bible. Mais chaque fois que j'avais occasion de parler à mon père, quoique je n'eusse plus de chapeau pour l'offenser, mon langage l'offensait encore, car je n'osais pas lui dire « vous », mais seulement « dao » ou « zi », selon ce que demandait l'occasion, et alors il ne manquait pas de se jeter sur moi à coups de poing. À l'une de ces occasions, je me souviens, après qu'il m'eut battu de cette manière, il m'ordonna, comme il le faisait ordinairement en ces moments-là, de monter dans ma chambre, ce que je fis, et il me suivit jusqu'au bas de l'escalier. Arrivé là, il me donna un dernier coup et, d'un ton très courroucé, dit « drôle, si jamais je t'entends encore me dire « zao » ou « zi », je te ferai rentrer les dents dans la gorge ». J'eus grande peine de l'entendre parler ainsi. Sentant une parole s'élever dans mon cœur à son égard, je me retournai et lui dis calmement « ne serait-il pas juste que Dieu te traite ainsi quand tu lui dis « zao » ou « zi » ?» Quoique sa main fût levée, je la vis s'abaisser, son visage se décomposer, et il se détourna et me laissa là. Malgré cela, je montai dans ma chambre et criai au Seigneur, le suppliant ardemment de bien vouloir ouvrir les yeux de mon père, afin qu'il voie contre qui il combattait, et pour quelle raison, et qu'il change son cœur. Après cela, j'eus un assez long temps de repos et de tranquillité, à l'abri de ses troubles, mon père ne me disant rien et ne me donnant aucune occasion de lui dire quoi que ce soit. Mais j'étais encore sous une sorte de réclusion, à moins que je n'eusse couru la campagne tête nue comme un fou astérisque, ce que je ne voyais pas être de mon ressort. Car je constatai que, quoiqu'être dehors et libre parmi mes amis m'eût été plus agréable, néanmoins la maison était pour le moment ma place convenable, une école où je devais apprendre, avec patience, à porter la croix, et je m'y soumis volontiers. Astérisque au XXI siècle, cela paraît une accusation étrange à porter contre quelqu'un que d'être dehors sans chapeau. Mais Elwood n'est pas le seul à avoir cette opinion. Tout aussi honteux à cette époque était de laisser pousser sa barbe et d'être mal rasé. Mais après quelque temps, une nouvelle tempête plus féroce et plus âpre que toutes les précédentes s'éleva et s'abattit sur moi. En voici l'occasion, mon père ayant été dans sa jeunesse, surtout lorsqu'il vivait à Londres, un auditeur assidu de ce qu'on appelle des prédicateurs puritains, avait amassé un assez bon fond de connaissances des Écritures et demandait parfois, non pas constamment, ni très souvent à sa famille de se réunir, le premier jour le soir. Là, il leur expliquait un chapitre et priait. Sa famille, tout comme son domaine, était maintenant réduite, car ma mère était morte, mon frère parti et ma sœur aînée à Londres, et ayant renoncé à l'agriculture, il avait renvoyé avec cela la plupart de ses domestiques, si bien qu'il n'avait plus qu'un homme et une servante. Il advint ainsi que, un soir de premier jour, il dit à ma sœur, qui était assise avec lui dans le salon, d'appeler les domestiques pour la prière. Que cela fût fait comme une épreuve pour moi ou non, je ne sais, mais ce fut pour moi un test, car eux, m'aimant beaucoup et désapprouvant la conduite de mon père envers moi, ne se hâtèrent pas d'entrer, mais restèrent jusqu'à recevoir une seconde sommation. Cela l'offensa tellement que, lorsqu'enfin ils entrèrent, il, au lieu de prier, les interrogea sur la raison pour laquelle ils n'étaient pas venus dès le premier appel, et la réponse qu'ils lui firent augmenta plutôt qu'elle n'apaisa son déplaisir. D'un ton courroucé, il dit « Appelez ce gaillard, parlant de moi, restez seul dans la cuisine, car il est la cause de tout cela. » De même qu'ils avaient hésité à entrer sans moi, de même ils n'étaient pas empressés de m'appeler, craignant que l'effet du mécontentement de mon père ne s'abattît sur moi, comme il arriva bientôt, car moi, entendant ce qui se disait et n'attendant pas qu'on m'appelle, j'entrai de moi-même. Aussitôt entré, mon père déversa sur moi sa colère en termes très vifs et amers, ce qui m'arracha, dans la douleur de mon cœur de le voir s'y emporter, ces quelques mots, que ceux qui peuvent prier avec un tel esprit le fassent, quant à moi, je ne le puis. Sur quoi mon père se jeta sur moi à coups de poing, et ne jugeant pas cela suffisant, il se hâta vers l'endroit où se trouvait sa canne, la saisit et m'en frappa, pensai-je, de toute sa force. Étant tête nue, je crus que ses coups m'auraient nécessairement fendu le crâne si je n'avais pas mis mon bras sur ma tête pour la défendre. Son homme, voyant cela et ne pouvant se contenir, s'interposa entre nous, et saisissant la canne, il la retint si fermement par la force de sa main que, sans même tenter de l'arracher, il empêcha pourtant mon père d'en frapper, ce qui ne fit que l'irriter davantage. Cela me déplut chez cet homme, et je lui dis de lâcher la canne et de s'en aller, ce qu'il fit aussitôt, et se tournant pour partir, il reçut un coup sur les épaules pour sa peine, qui ne lui fit pas grand mal. Mais alors ma sœur, craignant que mon père ne s'en prît de nouveau à moi, le supplia de cesser, ajoutant « En vérité, monsieur, si vous le frappez encore, j'ouvrirai la fenêtre à battants et je crierai au meurtre, car j'ai peur que vous ne tuiez mon frère. » Cela arrêta sa main, et après quelques paroles menaçantes, il m'ordonna de regagner ma chambre, ce que je fis, comme je le faisais toujours chaque fois qu'il me le disait. Là, peu après, ma sœur me suivit pour voir mon bras et le panser, car il était en effet très meurtri et enflé entre le poignet et le coude, et par endroits la peau était rompue et tuméfiée par de nombreux coups. Bien qu'il fût très douloureux, et que j'en ressentisse pendant quelque temps une grande douleur, j'avais pourtant la paix et le calme dans l'esprit, étant plus affligé pour mon père que pour moi-même, sachant qu'il s'était fait plus de mal à lui-même qu'à moi. Ce fut, autant que je me souvienne, la dernière fois que mon père rassembla sa famille pour prier, et ce fut aussi la dernière fois qu'il s'en prit à moi, du moins avec une telle sévérité. Le reste de l'hiver, je le passai dans une vie solitaire et retirée, n'ayant personne avec qui converser, personne à qui me confier, personne à qui demander conseil, personne auprès de qui chercher du soulagement, sinon le Seigneur seul, qui pourtant valait plus que tous. Cependant, la compagnie et la société d'amis fidèles et judicieux m'auraient, pensais-je, été très bienvenus et aussi utiles dans mon cheminement spirituel, où je croyais avancer lentement, mon âme aspirant à de plus grands progrès, dont le sentiment m'arracha les vers suivants, « L'arbre d'hiver me ressemble, dont la sève dort dans la racine, le printemps approche. Comme lui, moi aussi je bourgeonnerai, je l'espère et je pousserai. » Les Pennington envoyés aux secours enfin, il plut au Seigneur d'inspirer à Isaac Pennington et à sa femme l'idée de rendre visite à mon père et de voir comment j'allais, et ils me furent très bienvenus, quels qu'ils aient été pour lui, et je ne doute pas qu'ils lui eussent été plus agréables encore si je n'avais pas été en cause. Ils restèrent chez nous toute la nuit, et ils eurent avec mon père de longs entretiens, tant sur les principes de la vérité en général que sur moi en particulier, auxquels je ne fus pas admis. Mais je me souviens d'une chose dont j'entendis parler ensuite, à savoir, lorsque mon père et moi étions allés chez eux quelques mois auparavant, Mary Pennington, au cours d'une discussion entre eux, lui avait raconté combien le père de son mari, l'échevin Pennington, avait traité durement celui-ci au sujet de son chapeau, ce que mon père ne pensant guère alors que ce serait, et sitôt encore, son propre cas reprocha vivement à l'échevin, s'étonnant qu'un homme aussi sage pût prêter attention à une chose aussi triviale que d'autres. Cela lui donna un point d'appui pour le saisir, et ayant une vieille connaissance avec lui, et lui ayant toujours eu pour elle une haute opinion et du respect, elle, qui était une femme d'une grande sagesse, à la parole prompte et à l'esprit bien résolu, poussa son argument jusqu'au bout et le pressa si étroitement sur ce point qu'il se trouva tout à fait démuni pour se défendre. Après le dîner du lendemain, lorsqu'ils furent prêts à prendre le coche pour rentrer chez eux, elle pria mon père que, puisque ma compagnie lui était si peu agréable, il me permît d'aller passer quelque temps avec eux, où je serais certain d'être le bienvenu. Il était très réticent à l'idée que je parte et formula de nombreuses objections, auxquelles elle répondit et qu'elle leva avec tant de clarté que, ne trouvant plus d'excuses à alléguer, il finit par s'en remettre à moi, et je fis promptement pencher la balance en faveur du départ. Nous étions déjà arrivés près de la voiture avant que la décision fût arrêtée, et j'étais prêt à monter, lorsqu'une de mes sœurs rappela en privé à mon père que je n'avais pas de chapeau. Cela le surprit quelque peu, car il ne jugeait pas convenable que je quitte la maison si loin et pour y séjourner sans chapeau. Il lui souffla donc d'aller m'en chercher un, et pendant ce temps, il les entretint par quelques conversations. Mais dès qu'il vit le chapeau arriver, il cessa de parler et rentra dans la maison, de peur que je ne le mette en sa présence. Je n'avais pas un sou sur moi, ni d'ailleurs nulle part, car mon père, dès qu'il vit que je voulais être Quake, me prit tout l'argent que j'avais et tout ce qui avait de la valeur ou pouvait se vendre, comme des boutons de métal, des bagues, etc., prétendant qu'il les garderait pour moi jusqu'à ce que je revienne à la raison, de peur que, dans l'intervalle, je ne les détruise. Grande fut l'affection et multiples les bontés que je reçus de ces dignes amis, Isaac et Mary Pennington, tandis que je vivais dans leur maison. Ils furent en vérité pour moi, en ce temps de mon enfance religieuse, comme des parents aimants et de tendres nourrices. Car, outre leurs conseils graves et opportuns et leurs conversations exemplaires, ils me procurèrent les moyens d'aller aux autres réunions des amis dans cette contrée, lorsque la réunion ne se tenait pas dans leur propre maison. En effet, le temps que je passais avec eux fut si bien employé qu'il non seulement apporta une grande satisfaction à mon esprit, mais tourna aussi, dans une bonne mesure, à mon avantage spirituel dans la vérité. Mais afin que je ne pèse pas, d'une part, trop lourdement sur mes amis, ni d'autre part, n'oublie la maison de servitude, après être resté chez eux environ 6 ou 7 semaines du temps appelé Pâques au temps appelé la Pentecôte, je pris congé de pour rentrer chez moi, ayant l'intention de marcher jusqu'à Wycombe aussi Wycombe en une journée, et de là jusqu'à la maison en une autre. Le jour où je rentrai à la maison, je ne vis pas mon père, ni jusqu'à midi le lendemain, lorsque j'entrai dans le salon où il se trouvait pour prendre ma place habituelle au dîner. Dès mon entrée, j'observai au visage de mon père que mon chapeau restait pour lui une offense, mais lorsque je me fis assis, et avant d'avoir mangé quoi que ce fût, il me le fit comprendre plus pleinement en me disant, mais d'un ton plus doux que celui qu'il employait autrefois pour me parler, « Si tu ne peux te contenter de venir dîner sans chapeau sur la tête, je te prie de te lever et d'aller dîner ailleurs. » À ces mots, je me levai de table et, quittant la pièce, j'allai dans la cuisine, où je restai jusqu'à ce que les domestiques aillent dîner, puis je m'assis très content avec eux. Pourtant, je suppose que mon père voulait que je fusse allé dans une autre pièce et que j'y eusse mangé seul, mais je choisis plutôt de manger avec les domestiques, et je le fis dès lors tant que lui et moi vécûmes sous le même toit. À partir de ce moment, il préféra, me sembla-t-il, éviter de me voir plutôt que de raviver la crêle à propos de mon chapeau. M'étant renseigné sur les lieux où se tenaient des réunions des amis à une distance raisonnable de chez moi, je m'y rendais. D'abord, j'allai dans une ville appelée Adenham, dans le Buckinghamshire, à 5 miles de chez mon père, où, dans la maison d'un certain Belson, quelques-uns qu'on appelait Quakers se réunissaient parfois le premier jour de la semaine, mais j'y trouvai peu de satisfaction. Ensuite, à la suite de nouvelles recherches, j'appris qu'il y avait une réunion établie dans un petit village appelé Middle, à environ 4 bons miles de chez moi, dans la maison d'un certain John White, qui s'y continue encore, et j'y allais constamment tant que je vécus dans cette contrée et que je le pus. Bien des rudes journées de marche ai-je faites pour m'y rendre et en revenir, étant le plus souvent en hiver, quel que fût le temps au-dessus de nos têtes mouillées au moins jusqu'aux chevilles, et pourtant, par la bonté du Seigneur envers moi, je fus conservé en santé. Il y avait aussi une petite réunion le 4e jour de la semaine dans une ville appelée Bledlow à 2 miles de chez moi, dans la maison d'un certain Thomas Sunday, qui professait la vérité, mais sa femme, nommée Damarie, la possédait réellement, c'était une femme d'une grande sincérité et d'un sens vif, et j'allais d'ordinaire à cette réunion. Mais bien que je prisse cette liberté pour le service de Dieu, afin de pouvoir l'adorer dans les assemblées de son peuple, je ne l'employais pas en d'autres occasions. Je passais plutôt mon temps, les autres jours, pour la plupart dans ma chambre, l'esprit retiré, attendant le Seigneur. Le Seigneur daigna me visiter par son esprit et sa vie vivifiant, de sorte que j'en vins à sentir l'opération de sa puissance dans mon cœur, extirpant ce qui était contraire à sa volonté et me donnant, en mesure, la domination sur cela. Tant que mon esprit demeurait dûm soumis à cette puissance divine, je grandissais dans une connaissance plus intime du Seigneur, et le Seigneur promit de me parler au plus profond de mon âme et d'ouvrir mon intelligence dans sa crainte, afin de recevoir de lui conseil, si bien que non seulement j'entendais parfois sa voix, mais je pouvais aussi distinguer sa voix de la voix de l'ennemi. Comme ainsi j'attendais chaque jour le Seigneur, un exercice grave et inhabituel vint sur moi, qui abaissa mon esprit très bas devant le Seigneur. J'avais vu dans la lumière du Seigneur l'horrible culpabilité de ces prêtres trompeurs, de diverses sortes et dénominations, qui faisaient commerce de la prédication et pour un gain honteux, maintenaient le peuple dans un apprentissage perpétuel, et pourtant ils les enseignaient de telle sorte que, par leur enseignement et leur ministère, ils ne pouvaient jamais parvenir à la connaissance, encore moins à la reconnaissance de la vérité, car comme eux-mêmes haïssaient la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises, ainsi en injuriant, en diffamant et en blasphémant. Contre cette pratique de ces faux docteurs, le zèle du Seigneur avait flambé dans mon sein depuis quelque temps, et maintenant le fardeau de la parole du Seigneur contre eux tomba lourdement sur moi, avec l'ordre de proclamer sa controverse contre eux. J'eusse volontiers été excusé de ce service que je jugeais trop lourd pour moi. Je priais donc le Seigneur d'ôter ce poids de dessus moi, qui était encore jeune à tous égards, et de le mettre sur quelque autre de ses serviteurs, dont il en avait beaucoup qui y étaient bien plus capables et propres. Mais le Seigneur ne se laissa pas fléchir, au contraire, il laissa le fardeau sur moi avec plus de poids encore, exigeant de moi l'obéissance et me promettant de m'y assister. Sur quoi je me levai de mon lit et, dans la crainte et le tremblement du Seigneur, je mis par écrit ce qu'il me dictait d'écrire par le mouvement de son esprit divin. Lorsque j'eus terminé, bien que la dureté du message ainsi délivré au-dedans fût difficile à ma nature à publier, je trouvai néanmoins faveur auprès du Seigneur dans mon obéissance à sa volonté, et sa paix remplit mon cœur. Dès que je le pus, je communiquai à mes amis ce que j'avais écrit, et cela fut imprimé en l'année 1660 sur une feuille sous le titre « Grand alarme tout de Priest, or a message from heaven to forewarn them ». Quelque temps après la publication de ce papier, ayant occasion d'aller à Londres, j'allai rendre visite à George Fox asterisque le jeune, qui, avec un autre ami, était alors prisonnier sous la garde d'un messager. Je ne l'avais jamais vu, ni lui moi auparavant. Pourtant, ce papier étant posé sur la table devant lui, il le montra du doigt et me demanda si j'étais la personne qui l'avait écrit. Je lui dis que oui. « C'est beaucoup, dit l'autre ami, qui le supporte. « C'est, répondit-il, leur part, et ils doivent le supporter. » Astérisque George Fox le jeune, sans lien de parenté avec George Fox l'aîné, fut l'un des rares Quakers que l'on considérait comme « immédiatement convaincu » et non converti par George Fox. Il était allé à Harwich avec Robert Graffingham pour y prêcher la vérité en mai 1660. Milubar, le maire de cette ville, en ayant entendu parler, arrêta quelques personnes qui se rendaient à la réunion, et la foule grossière fit un vacarme hideux devant la maison où se tenait la réunion et voulut la démolir. George Fox, entendant le bruit pendant qu'il prêchait, devint très ailé et avec une puissance immense fut amené à dire « Malheur, malheur aux gouvernants et aux docteurs de cette nation, qui permettent une telle impiété et ne cherchent pas à la réprimer ». Cela fut rapporté au maire, qui fit alors arrêter George Fox, ainsi que Robert Graffingham, charpentier de marine de l'amirauté à Harwich. Le maire les ayant fait emprisonner, envoya des informations à la Chambre des communes, et en mai 1660, un mandat de la Chambre des communes fut reçu pour les conduire à Londres, où ils furent enfermés à Lambeth House. Histoire de Soul, T.I. 73. Pendant que j'étais alors à Londres, j'allai à une petite réunion des amis, qui se tenait alors dans la maison d'un certain Humphrey Bash, orfèvre, à l'enseigne de l'escargot dans Tower Street. C'était alors un temps très troublé, non du fait du gouvernement, mais à cause de la populace de garçons et de gens grossiers, qui, au tournant des temps ou au retour du roi, prirent la liberté d'être fort injurieux. Lorsque la réunion fut terminée, un certain nombre de ces gens turbulents s'étaient rassemblés à la porte, prêts à recevoir les amis à leur sortie, non seulement par des paroles mauvaises, mais par des coups, que je les vis distribuer largement à certains de ceux qui étaient sortis avant moi, et je m'attendais à recevoir ma part quand je viendrais parmi eux. Mais tout à l'opposé de mon attente, lorsque je sortis, ils se dirent l'un à l'autre « Laisse-le, ne t'en mêle pas, ce n'est pas un Quake, je te le garantis. » Cela me frappa, et me fut pire que s'ils m'avaient asséné leurs coups de poing, comme ils le faisaient aux autres. Je fus troublé de penser à ce qui en était la cause, ou à ce que ces gens grossiers avaient vu en moi qui les empêchait de me prendre pour un Quake. Après un examen attentif de moi-même, quant à mon habillement et à mon maintien, je ne pus y trouver d'autre raison que ceci. Alors que j'étais sous la garde du sergent d'armes, je portais sur la tête une grande toque montée de velours noir, dont la bordure, relevée en plis, paraissait, semble-t-il, un peu au-dessus de la tenue alors commune d'un Quake, et cela me dégoûta de ma toque. Je vins alors à Londres depuis la maison d'Isaac Pennington, et j'y repassai encore sur mon chemin du retour, et pendant que j'y séjournais, parmi d'autres amis qui s'y rendaient, il y avait Thomas Law astérisque d'Oxford. C'était un ouvrier fidèle et diligent dans l'œuvre du Seigneur, et il avait un excellent don de ministère. Dans mon zèle pour la vérité, désirant ardemment que mes voisins eussent l'occasion d'entendre l'Évangile, la bonne nouvelle du salut, prêchée parmi avec vie et puissance, j'entrai en communication avec lui à ce sujet, offrant d'obtenir quelques lieux convenables dans la ville où je vivais pour y tenir une réunion, et d'y inviter mes voisins, s'il lui pouvait me donner quelques raisons d'espérer sa présence. Il me dit qu'il n'était pas à sa propre disposition, mais à celle du Seigneur, et qu'il ne savait comment celui-ci pourrait disposer de lui. Mais il me souhaita que si, une fois rentré chez moi, la chose demeurait avec poids sur mon esprit et que je pouvais obtenir un lieu convenable pour une réunion, je l'en avisasse en quelques lignes adressées à Oxford, où il se rendait alors, et qu'il pourrait ensuite me faire savoir quelle liberté il avait dans cette affaire. Astérisque les premiers Quakers venus à Oxford furent deux femmes, Elizabeth Raven et Elizabeth Fletcher, toutes deux originaires du Nord. C'était en juin 1654, leur prédication donna lieu à une émeute honteuse. Les étudiants, pour la plupart se préparant au ministère, les traînèrent jusqu'à la pompe du St. John's College et les arrosèrent d'eau à la pompe, puis les traînèrent à travers la flaque d'eau à plusieurs reprises. Elizabeth Fletcher fut si meurtrie dans la lutte qu'elle mourut de ses suites peu de temps après. Le vice-chancelier fit arrêter les femmes et les fit fouetter hors de la ville malgré les protestations du maire. Cet esprit de violence contre les Quakers se poursuivit, et Thomas Law, qui était l'un des principaux prédicateurs à Oxford, y souffrit beaucoup. En 1660, il fut jeté en prison à l'occasion du complot de la 5e monarchie, voir Stat Papers Domestic, 1660, 15 janvier, pour une description de la persécution à Oxford. Le fait qu'il eût presque réussi à convaincre William Penn, qui était alors étudiant, eut peut-être un lien avec son emprisonnement. Quoi qu'il en soit, il ne fut pas libéré avec les autres arrêtés au même moment, on lui proposa le serment d'allégeance et il fut renvoyé en prison. En 1662, Thomas Law et Mary, sa femme, étaient à Wexford et se rendant à la prison pour visiter quelques amis qui s'y trouvaient, ils furent arrêtés et détenus eux-mêmes en prison. À ce récit, on peut ajouter qu'en 1656, Mary Law fut emprisonnée pour avoir prêché sur la place du marché à Marlborough. La conversion finale de Penn fut due à sa rencontre avec Thomas Law en Irlande. Thomas Law mourut à Londres en 1668, histoire de Soule, TI 227. Lorsque donc, je fus rentré chez moi et que je me fis accorder avec un voisin pour un lieu où tenir une réunion, j'écrivis à mon ami Thomas Law pour l'informer que j'avais procuré un endroit pour une réunion et que j'y inviterais du monde, s'il voulait en fixer le temps et me donner quelques raisons d'espérer qu'il y serait. Cette lettre, je l'envoyai par un voisin à Same, afin qu'elle fût remise à un teinturier d'Oxford, qui tenait régulièrement le marché de Same, et avec qui j'avais une assez bonne connaissance, l'ayant parfois autrefois employé non seulement dans le cours de son commerce, mais pour porter des lettres entre mon frère et moi lorsqu'il était étudiant dans cette université, ce pourquoi il était toujours payé, et il avait été si soigneux dans la remise que nos lettres étaient toujours arrivées à bon port jusqu'à présent. Mais cette fois-ci, la Providence l'ordonnant ainsi, ou du moins le permettant pour mon épreuve, cette lettre de moi, au lieu d'être délivrée selon son adresse, fut saisie et portée, me dit-on, à Lord Falkland, qui était alors appelé Lord Lieutenant de ce comté. La cause de cette interception des lettres à cette époque fut la folie de ce coup d'éclat de ces hommes de la 5e monarchie astérisque égarée, qui sortant en armes de leur maison de réunion de Coleman Street, à Londres, sous les ordres de leur chef véné, firent une insurrection dans la ville, sous prétexte d'établir le royaume de Jésus, qui, dit-on, ils s'attendaient à voir descendre du ciel pour être leur chef, tant ils comprenaient peu la nature de son royaume, bien qu'il eût lui-même déclaré qu'il n'était pas de ce monde. Astérisque, d'après Valiant, For the Truth de Ruth Murray, ce fut la folle explosion des hommes de la 5e monarchie, une secte née au temps de Cromwell, prétendant que le Seigneur Jésus allait bientôt venir établir son trône sur la terre. Sir Henry Vane était l'un des chefs de ce parti et, comme il était maintenant en prison avec les juges ces puritains du Parlement qui avaient condamné le père du roi à être décapité de Charlier, on supposa que cette révolte était en partie provoquée par le désir de le délivrer. Dans la nuit du 6 du 1er mois 1661, un tonnelier de vin du nom de Véné, dont la raison était déréglée, enflamma par une prédication véhémente quelques 50 ou 60 visionnaires, et ces hommes se précipitèrent hors de sa réunion à Londres en proclamant le roi Jésus. La ville tranquille était plongée dans le sommeil, mais en quelques instants un grand tumulte éclata. Les trimbans milices furent appelés, et les instigateurs du trouble s'enfuirent à la campagne pendant 2 jours, se cachant dans les bois. Le 9, ils revinrent en plein jour, dans la croyance fanatique que ni les balles ni l'acier tranchant ne pouvaient leur nuire. Ils forcèrent les portes de la ville, mirent en déroute toutes les trimbans qu'ils rencontrèrent, en tuant plusieurs, et mirent même la garde du roi en fuite. Ils furent finalement vaincus et la plupart pris prisonniers. Le reste tomba les armes à la main, criant que le Christ allait venir bientôt régner sur la terre. Nonobstant le caractère insignifiant de cette échauffourée, un sentiment d'incertitude se répandit sur la nation. Beaucoup de personnes, haut placées, étaient connues pour appartenir aux hommes de la 5e monarchie, et le comte de Clarendon proposa l'établissement d'une armée permanente et accroît les craintes du peuple en annonçant le danger d'une grande insurrection. Note de l'éditeur du site, tous les disciples de l'Église d'Angleterre étaient considérés avec suspicion, et les amis, bien qu'innocents de toute participation à des complots, durent supporter le poids principal de la persécution qui s'ensuivit. Des hommes armés dispersaient leurs réunions. Beaucoup crurent et accusèrent les Quakers d'être impliqués dans les complots. Lorsque les hommes de la 5e monarchie furent jugés au Parlement, ils nièrent que les Quakers aient été impliqués. Pourtant, les Quakers continuèrent d'être persécutés. Le roi, peu avant son arrivée en Angleterre, avait, par sa déclaration de Breda, donné assurance de liberté aux consciences scrupuleuses et que nul ne serait inquiété ni mis en cause pour différence d'opinion en matière de religion s'il ne troublait pas la paix du royaume. Sur cette assurance, les disciples de toutes sortes se reposèrent et se tinrent pour en sûreté. Mais maintenant, par l'action frénétique de quelques hommes à la tête échauffée, certains estimèrent que le roi était dégagé de sa parole et de sa promesse royale, donnée publiquement dans sa déclaration précédente. Aussitôt, des lettres furent interceptées et ouvertes pour découvrir d'éventuels complots et desseins contre le gouvernement, et non seulement les réunions de disciples de toutes sortes, sans distinction, furent troublées, mais un très grand nombre furent emprisonnés dans la plupart des régions du royaume, et l'on fit de grandes recherches dans tous les comtés pour des personnes suspectes, qui, si elles n'étaient pas trouvées aux réunions, étaient arrachés à leur propre maison. Le Lord Lieutenant, comme on l'appelait de l'Oxfordshire, avait, à cette occasion, pris Tomalo et beaucoup d'autres de nos amis lors d'une réunion et les avait envoyés prisonniers au château d'Oxford, juste avant que ma lettre ne lui parvînt, dans laquelle j'avais invité Tomalo à une réunion. Et lui en donnant la pire interprétation, comme si moi, pauvre garçon simple, j'avais projeté une réunion séditieuse afin de soulever une rébellion, ordonna à deux des lieutenants adjoints qui habitaient le plus près de chez moi d'envoyer un détachement. Suite. Le but de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, laquelle conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.